Interview. 1. Interview.
Okay, the bird.
L'interview du jour. L'interview du jour.
Bonjour à toutes et à tous, ici Louis pour RDWA sur 107.5 FM et www.rdwa.fr. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Bernard Cellier, entre autres travaillant à Jaillance, mais aussi passionné d'apiculture. Il a un certain nombre de ruches et qui propose des petites formations d'initiation, voire plus. Méli Formation. Bonjour Bernard.
Bonjour Louis.
Alors avant de parler de tes formations, je voudrais quand même qu'on fasse deux digressions si tu nous l'autorises. Premièrement, nous parler un peu du cycle des abeilles, parce que c'est toujours intéressant de savoir comment ça fonctionne une ruche, quel est le cycle de vie des abeilles. Et après, tu nous rassureras un petit peu sur le sort des colonies. On parle en ce moment beaucoup de décès de colonies, donc tu nous rassureras ou pas d'ailleurs. Et ensuite, on terminera cette émission avec tes propositions de Méli Formation. Donc, comment ça marche une ruche? Dis-nous un peu les cycles naturels des abeilles.
Une ruche, ça ne marche pas, ça vole, ça butine, ça travaille.
Et ça ne marche pas.
Et ça ne marche pas. Alors, c'est une caisse en bois, une ruche. Il y a différents formats, parce que dans l'histoire, il y a eu une évolution qui fait que les ruches ont eu plusieurs formats. Et à l'intérieur de la ruche, il y a des petits œufs qui sont pondus par la reine, qui sortent de son abdomen, et après, ça devient des petites larves. Le petit œuf, la peau se déchire, ça devient une petite larve qui est nourrie avec une nourriture différenciée par les abeilles qui sont nourricières, qui elles ne sont pas encore sorties de la ruche. Et après, ces petites larves, au bout de 9 jours, elles sont operculées, c'est-à-dire c'est une fine pellicule de cire qui est poreuse, qui respire. Et après, il y a une petite nymphose, ça s'appelle, et après, l'abeille déchire l'opercule. La jeune abeille déchire l'opercule, elle a une couleur particulière, elle est toute grise et toute poilue, et après, elle sort et elle développe son système hormonal dans la ruche au fur et à mesure. Donc, elle aussi, de petite larve, elle est devenue abeille, et elle va prendre diverses fonctions en fonction de son système hormonal et de son âge dans la ruche. Alors, il y a deux sortes d'abeilles, il y a les abeilles d'hiver, les abeilles d'été. Les abeilles d'été durent en moyenne, on veut dire, c'est très global, c'est une moyenne, il faut compter 6 semaines, et les abeilles d'hiver 5-6 mois. Alors ces différences, c'est dû au corps gras que les abeilles d'hiver emmagasinent dans l'abdomen, c'est-à-dire qu'elles transforment le pollen en graisse pour pouvoir résister au froid, aux fortes températures de froid, au gel et tout ça, et elles se tiennent en boule. Et comme ça, elles tiennent la reine au chaud à l'intérieur de cette boule. Elles mettent l'abdomen à elles, elles le mettent dans les cellules qui sont de la graisse. Et après, elles tiennent la reine au chaud à peu près environ à 35 degrés. Alors on va revenir, si tu veux, sur la petite abeille qui éclot tout à l'heure, qui est sortie de son opercule, qu'on disait qu'elle était grise. Elle va développer plusieurs fonctions en fonction de son système, de ses hormones qui vont apparaître à l'intérieur de son corps. Au début, elle va développer son système olfactif, ses antennes qui sont très riches de cellules, ce sont des tubes creux qui lui permettent de communiquer. C'est par là qu'elle reçoit les odeurs. Une abeille a une perception des odeurs très très fine, presque aussi fine qu'un chien, on va dire même. Elle peut percevoir 200 nuances d'odeur. Toi, tu vas sentir une odeur. Elle va le sentir vraiment de façon très, très nuancée. Même certains gaz toxiques, elle peut arriver à même la sueur ou la transpiration de l'apiculteur, même l'inquiétude, elle la devine. Après, il faut qu'elle développe aussi sa digestion. Donc, c'est-à-dire qu'elle va recevoir le nectar des autres abeilles, c'est-à-dire les butineuses, celles qui sont passées dehors au-delà de 3-4 semaines à peu près. Et l'abeille qui a été butinée le nectar va le dégorger de son jabot, son estomac. Elle va mettre des enzymes avec. L'autre abeille qui est à l'intérieur va recevoir cette goutte de nectar de 40 microlitres. C'est très, 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 très fin. Cette petite goutte. Et après, l'abeille qui l'a reçue va se promener sur les cadres avec les alvéoles. Et elle va poser la petite goutte, dégorger la petite goutte de miel dans l'alvéole. Et elles vont transporter comme ça plusieurs fois le nectar d'une cellule à l'autre pour pouvoir faire évaporer son eau, son humidité. Après, son système hormonal va encore se développer parce qu'il faut qu'elle nourrisse les autres abeilles. Donc, elle va ramasser le pollen que vont lui donner les autres abeilles, les butineuses, qu'elles ont sur la dernière patte. Les abeilles ont 6 pattes, comme tous les insectes, à part quelques exceptions. Et c'est une corbeille, c'est une partie creuse comme une cuillère, en fait. Et il y a un poil au milieu dans lequel elles agglutinent tous les grains de pollen. L'abeille va le sortir et va le confier, ou alors va le déposer le plus près possible des petits œufs, parce que c'est la nourriture principale des larves, qui aura une fonction fondamentale et réellement cruciale. Le pollen, c'est... On parle toujours du miel, bien sûr, c'est indispensable pour les abeilles. Mais le pollen, c'est pratiquement pareil pour les abeilles. C'est vraiment... C'est de l'or pour elles. C'est ce qu'il y a de plus important. Donc c'est pour ça, il ne faut pas mettre de pesticides et d'insecticides dans son jardin. Parce que c'est le pollen, lui, n'est pas filtré par la plante. Il en reçoit, et ça désoriente les abeilles. Si on met des cochonneries, si on met des insecticides dessus. Donc, le pollen, après, elles vont le stocker, elles vont le sortir avec leurs pattes, elles vont le mettre dans une alvéole, et elles vont mettre un coup de boule carrément pour stocker le pollen dans l'alvéole. Mais, comme c'est un aliment qui est fragile, ce sont des protéines, ce sont des protides en fait, elles vont transformer en protides. Il va fermenter. Pour retenir sa fermentation, elles vont mettre une couche de miel. Comme elles ont mis de l'enzyme au passage de leur appareil buccal, avec leur mandibule, que c'est passé à travers leur mandibule, elles ont mis un petit enzyme à chaque fois, 3-4 fois, mettons. Et à force de mettre des enzymes, au bout d'un moment, ça va apporter de l'eau oxygénée, mais de façon infime, 0,00010, je ne sais pas combien. C'est vraiment très très faible, mais ça va empêcher, ça va retenir la fermentation. Et là, ça, ce pain d'abeille, ça s'appelle comme ça, il va faire comme le café, il va fermenter, mais pas trop. Ça va faire comme des lasagnes, en fait. Elles vont mettre une couche de pollen, une couche de miel, une couche de pollen, une couche de miel, et ainsi de suite, jusqu'au moment où c'est plein. Et cet aliment-là, elles vont le donner aux larves, et en plus, le pollen qu'elles mangent, elles vont pouvoir, avec des glandes exprès qu'elles ont dans le cerveau, elles vont transformer en gelée royale. Et la gelée royale, c'est une bombe énergétique. Et après, il y a ce qu'on appelle de l'épigénétique, ce qu'on a parlé une fois. Je crois que c'est Adi ou à Marignac, je ne sais plus. Elles vont, en fonction de ce qu'elles donnent à la larve, elles vont lui donner soit de la gelée royale pure, alors là, ça sera pour la reine, soit 50% de gelée royale et de pain d'abeille, et ça sera une ouvrière, ou alors soit que du pain d'abeille, que du pollen carrément, ça sera à ce moment-là, ça sera un faux bourdon, c'est-à-dire le mâle, qui lui a une vie très, très particulière par rapport aux ouvrières ou par rapport à la reine. Après, l'abeille va développer ses muscles, c'est-à-dire qu'elle va développer ses muscles à l'air dans son thorax, ses ailes, quoi. Elle reste toujours dans la ruche, mais comme il fait très chaud l'été, elle va commencer à bien bouger ses ailes pour faire évaporer l'humidité. Évaporer aussi, faire sortir la condensation. Mais cette condensation, elle a une certaine humidité. C'est comme un ventre maternel, une ruche. Une ruche, c'est un ventre maternel. Et après, au bout de quelques jours, on va dire, on a dit 3 semaines à peu près, comme une abeille, une ouvrière, ça dure à peu près 3 semaines dans une ruche. Et après, on ne compte pas de la même façon quand elle est sortie. Après, elle va développer ses glandes à venin. Elle va développer aussi, à l'intérieur de la ruche, ses glandes cirières. Là aussi, elle aura besoin de beaucoup de pain d'abeille et de pollen. Et après, une fois qu'elle a développé ses glandes à venin, c'est-à-dire son dard, elle va développer aussi ce qu'on appelle les glandes de Nassanoff, qui est une trompette de rappel, quoi, pour les autres quand il y a un danger imminent. Et après, une fois que ses ailes et puis tout cet organisme s'est réellement mis en place, elle va partir pour aller explorer autour de la ruche dans un rayon soit de 800 mètres à 1 km pour ramasser du pollen. C'est pour ça que les haies sont importantes et les fleurs sont importantes autour d'une ruche. Il faut bien choisir l'emplacement. Ou alors à 3 km pour aller chercher du nectar. En sachant qu'il faut à peu près faut 1 million de kilomètres à peu près pour faire un kilo de miel. En gros, c'est vraiment une estimation. Pour faire un kilo de cire, les apiculteurs comptent 7 kilos de miel à peu près. C'est la consommation moyenne.
Est-ce que tu pourrais préciser deux ou trois petites notions? La première, c'est 1. Rapporter ce cycle de vie à une temporalité saisonnière. Oui. Parce que tu as parlé de deux types d'abeilles, mais alors ça prend combien de temps entre le début de l'abeille d'hiver et sa mort? Et ça part à partir de quel mois? Deuxième petite notion, ce serait qu'est-ce que le miel? Et enfin, précise-nous aussi, assez rapidement, le rôle de la reine, qui est, je crois, assez fondamental.
Pour répondre à l'ensemble de tes questions, une abeille d'été, on a dit qu'elle vivait 6 semaines.
À partir de quand?
Alors c'est à partir du... La ponte de la reine reprend à partir du mois de janvier, mais ce sont quelques œufs épars comme ça. Ça monte réellement la progression de ponte. Si on fait une abscisse et une ordonnée, la progression de ponte part à partir de maintenant, fin février, début mars. Là, réellement, ça commence à monter. Et on va compter entre 250 et 500 œufs par jour, jusqu'au mois d'août, où ça peut faire 3000 œufs par jour, pour vraiment les très fortes reines. Il faut compter pour une reine, une bonne reine, il faut compter 2000 œufs par jour, une bonne pondeuse, quoi, comme on dit. Et après, cette courbe redescend à partir du 15 août. Et le 15 août, tu observeras, toi qui es un grand randonneur ici, que la floraison commence à tomber. Et ce sont surtout des fleurs à pollen dont on a parlé de l'importance à l'instant. Et les fleurs à pollen, c'est pour nourrir les larves, et c'est aussi indispensable pour les abeilles. Et après, ce sont les abeilles d'hiver qui vont intervenir à partir de cette période-là, parce qu'il y a une petite remontée au mois de septembre, octobre, novembre, mais ça retombe, et après la ponte se termine.
Et la reine hiberne?
La reine, elle reste à l'intérieur de la ruche, elle ne bouge pas. Alors le cycle de vie d'une reine, c'est quand même particulier. Si tu veux, on peut finir sur les ouvrières, parce que les ouvrières d'été, elles terminent leur vie. Il y a plusieurs cycles d'abeilles, plusieurs fois 6 semaines, à partir du mois de février-mars à peu près, où c'est une petite progression jusqu'au mois d'août, il y a plusieurs cycles d'abeilles. Après, ça s'écroule un peu. À partir du mois de septembre-octobre, ce sont les abeilles d'hiver jusqu'au mois de mars. Enfin, on va dire février, quoi. Ou plutôt février, mais c'est plutôt mars, quoi. On va dire en gros, quoi, c'est ça. La durée de vie d'une butineuse, ça ne se compte pas en temps. Dès qu'elle sort de la ruche, on compte en kilomètres, c'est 800 kilomètres, point.
Ça a été testé, ça?
Ah oui, ça a été mesuré. On sait qu'une butineuse... C'est 800 kilomètres. Une ruche qui est à côté d'un champ de tournesol qui a été imbibé de régents ou de gauchos, de ce que tu veux. Enfin, le gaucho n'est plus en vente libre. Mais à ce moment-là, ça va brûler le système nerveux des abeilles. Et à ce moment-là, les ouvrières auront un temps beaucoup plus court d'adaptation à l'intérieur de la ruche et ils vont sortir beaucoup plus tôt. Ce qui va épuiser la ruche. Et ce qui va réduire la colonie. Tu comprends? Alors maintenant, la reine, pour suivre dans l'ordre de tes questions, la reine, elle est issue d'un œuf tout à fait commun aux autres œufs, des ouvrières. C'est pareil qu'un œuf d'ouvrière, sauf qu'il a une alimentation spéciale. Alors tout à l'heure, on a parlé de la gelée royale qui était fabriquée par les abeilles. Les nourrit essentiellement avec de la gelée royale à 100%. À 100% dans une petite cellule spéciale. Et après, avec un temps plus court d'operculation et d'incubation, parce qu'il faut 21 jours pour une ouvrière et 16 jours pour une reine, elle sort et elle reste quelques jours dans la ruche. Si elle devine ou si elle entend même chanter une autre reine qui est bloquée dans une cellule royale spéciale, elle va la trucider avec son aiguillon. Alors elle peut tuer une autre reine ou elle peut te piquer, elle ne mourra pas. Tandis qu'une abeille va te piquer, une ouvrière ou une butineuse que tu vas tenir dans ta main, qu'un enfant tient dans sa main, va le piquer. Mais comme il y a des petites barbes qui s'accrochent, l'abeille perd son dard, tandis que la reine n'a pas de petits barbelés qui restent plantés comme ça dans la peau, dans la chair. Alors après quelques jours, elle sort, elle va faire un vol nuptial avec un nid dans le ciel de faux bourdons, de prétendants. Et elle va s'accoupler avec une quinzaine ou une vingtaine à peu près de faux bourdons, maximum une vingtaine, moyenne 15 faux bourdons. Après, une fois qu'elle s'est accouplée, elle va rentrer dans la ruche et au bout d'un jour ou deux, hop, ça y est, elle se met à pondre quelques œufs et après c'est parti et elle passe en gros maintenant. Avant c'était, on comptait à 5 ans, maintenant c'est 3 ans et demi, 4 ans grand maximum. Elle va rester née dans la ruche. Voilà.
La dernière question, c'était qu'est-ce que le miel et pourquoi en font-elles d'ailleurs ces abeilles ?
Alors, elles font du miel parce que déjà, elles savent où se trouvent les glandes nectarifères sur une fleur. Parce qu'elles ont un plan de vol, elles ont un cahier des charges qui est rapporté par les butineuses qui leur disent là, il y a une danse spéciale que font les butineuses et là, il y a le super coup à faire, il faut y aller, venez m'aider, c'est vraiment magnifique, ça sent trop bon, il faut aller. En plus, elle transporte l'odeur sur elle. Donc, elle va avoir une vue différente de la tienne, parce qu'elle voit dans le spectre de l'ultraviolet. Et dans le spectre de l'ultraviolet, les glandes nectarifères sont bien indiquées sur la corolle de la fleur, sur les pétales. Donc, elle voit rapidement. Est-ce que je réponds à ta question ? Et alors après, elle le pompe, elle le ramène. C'est en gros, c'est 40 microlitres. En gros, c'est entre 30 et 40 microlitres de le jabot d'une ouvrière, d'une butineuse. Elle le ramène, mais c'est un nectar qui est sucré. Donc pour elle, en plus du pollen et du pain d'abeille qu'elle fabrique, c'est un aliment qui leur permet de passer l'hiver tranquille parce qu'il est très riche, parce qu'il est réellement très riche.
En fait, le miel, c'est leur futur aliment.
C'est leur futur aliment pour passer l'hiver.
Alors c'est un peu cruel de la part de l'apiculture, mais on en reviendra peut-être tout à l'heure dans les dangers qui guettent les abeilles.
Pourquoi les apiculteurs seraient cruels ?
Parce qu'ils leur volent leur miel.
Non, parce que l'apiculteur, lui, il organise une surproduction par rapport à la ponte de la reine, parce qu'il est un apiculteur, c'est un démographe. C'est ce que je dis toujours à mes stagiaires. Un apiculteur, c'est un démographe. Donc, vous gérez, vous organisez une démographie, une surpopulation à votre intérêt, et surtout, vous la gérez après. Et une fois que vous la gérez bien, au plus vous avez de butineuses, au plus vous pourrez ramasser du miel dans un environnement sain. Ça va de soi. Mais il ne faut pas prendre les abeilles pour des vaches ou des Holstein. C'est pas ça, c'est pas ce que je veux dire. Ça peut arriver qu'on fasse des sélections d'abeilles, des croisements ou des choses comme ça, et ça peut moins marcher que ce qu'on espérait. On peut ramasser moins de miel que ce qu'on espérait. Ce sont des choses qui arrivent.
C'est-à-dire à peu près une bonne ruche, ça peut faire combien de miel par saison ?
Une bonne ruche, ça dépend des bonnes années, ça va de 15 à 30 kilos.
Ah, c'est pas rien quand même.
En moyenne, compte 15-20 kilos, une bonne ruche, une très bonne année, ça peut monter à 30 kilos. Il n'y a pas une année pareille. Il y a des années, tu ne vas rien ramasser, et d'autres années, tu vas manquer de hausse et de cadre.
Et avec cette particularité que selon le type de fleurs qu'elle butine, eh bien, on aura des miels toutes fleurs, des miels de cyprès, des miels acacia,
oui,
des miels, etc.
Absolument, parce qu'on peut arriver en fonction des floraisons, et en transhumant ces ruches et en suivant les floraisons, à séparer, à enlever les hausses et à faire des séries de miel différentes, bien sûr. Et une fois que la fleur est passée, hop, on enlève la hausse. Et même si elle n'est pas forcément pleine à ras-bord, on sait que dans cette hausse-là, pleine de miel, on aura du miel d'acacia ou du miel de châtaignier ou du miel de chêne. Du miel de cyprès, je ne sais pas, je ne crois pas, mais par contre, qu'est-ce qu'il y a encore comme autre miel ici ? Beaucoup de lavande, enfin moins de lavande, plutôt du lavandin, mais du tilleul par exemple. Ou des... Vraiment, si vraiment il y a une floraison abondante, on peut arriver à séparer. C'est un peu technique. Hein.
C'est pas si technique que ça. En tout cas, toute personne devrait s'intéresser à ces abeilles qui sont apparemment très importantes pour la survie de l'espèce humaine par le rôle de pollinisation qu'elles font à droite à gauche. Mais on ne va pas s'apesantir car tu n'es pas venu que pour cela et le temps passe. Sachez, chers auditeurs, que j'ai proposé à Bernard, ici présent, de faire une chronique de l'apiculteur. Il est en train d'y réfléchir. On verra si ça fonctionne un jour. Je vais te laisser réfléchir, Bernard. Maintenant, avant de passer à ces méliformations que tu proposes, et comme c'est un sujet ô combien passionnant, je comprends qu'il y ait des gens qui les suivent. Est-ce que tu pourrais nous rassurer ou pas, ou nous inquiéter sur effectivement le sort des abeilles en ce moment?
Alors, actuellement, statistiquement, la France compte à peu près 1 300 000 ruches. Alors, suivant les différents sites, le ministère de l'Agriculture va compter 1 300 000. D'autres sites, syndicats professionnels, vont compter 1 million de ruches. D'autres, 1 200 000, comptent un peu plus d'un million de ruches. Au niveau professionnel, en tant que personne qui vit réellement de l'apiculture, de 1800 apiculteurs, on a dû tomber, je crois, à 1600. Ça a dû baisser un peu. Il y a beaucoup qui sont partis à la retraite et qui ont pas été, leur exploitation n'a pas été reprise. Forcément, à cause des problèmes dus aux pesticides et aux frelons asiatiques. C'est surtout dans la région du sud-ouest que le frelon asiatique sévit beaucoup. Mais, par contre, il y a au niveau des apiculteurs amateurs, on va dire, les personnes qui sont en dessous d'une dizaine de ruches ou alors entre une quinzaine de ruches jusqu'à 50 ruches, là, c'est une population qui remonte au niveau des apiculteurs amateurs. Mais la production moyenne de miel en France a beaucoup elle est tombée, je crois, à 18 000 tonnes, alors que dans les années 2000, enfin avant 2000, on était à 32 000 tonnes. Donc, on exporte du miel, on exporte à peu près 4 000 tonnes par an de miel à l'étranger, mais on importe aussi énormément. Les supermarchés même ont des appuis de la Commission européenne pour mélanger du miel avec des sirops de sucre, enfin, parce qu'on manque de miel, quoi.
Donc on pourrait dire qu'effectivement elles sont en danger alors.
Alors, pour rentrer dans le sujet, oui, c'est vrai qu'elles sont en danger par plusieurs facteurs, plusieurs prédateurs. D'abord, il faut le dire, appeler un chat, parce qu'il y a des agriculteurs qui mettent des produits chimiques dans leur parcelle, même si ici nous sommes dans une bio-allée, donc on est moins concerné, mais il y en a quand même. Et puis, il y a des prédateurs comme le frelon asiatique, qui maintenant est surdit depuis l'année dernière. Enfin, voilà quoi.
J'ai même entendu parler que les ondes, les pylônes moyennes et haute tension pouvaient les perturber.
Pour te rassurer, enfin du moins être exhaustif sur le sujet, ce qu'il faut comprendre, c'est que les ondes radio, comme celle de Radio Diwa, ce sont des ondes hertziennes, donc qui sont un sinusoïde. Par contre, les ondes de téléphone portable, ce sont des ondes pulsées. Ce ne sont pas du tout les mêmes et elles peuvent être nocives pour les abeilles. Donc ce que font les apiculteurs, ils mettent des aimants d'un certain nombre de gausses, d'une certaine puissance très, très limitée, de chaque côté de la ruche, pour faire un champ magnétique qui va neutraliser les pollutions magnétiques extérieures au rucher. Alors ça, c'était pour les portables. Mais, par exemple, les ondes des lignes électriques peuvent être nocives pour les abeilles. On voit des fois, enfin moi j'ai une ruche qui est à côté, qui est à quelques mètres, plusieurs mètres d'un pylône moyenne tension de départ, les abeilles le contournent.
Peut-être dernier danger, on parle beaucoup de réchauffement climatique et on a vu cet hiver, un hiver exceptionnellement doux, bien qu'il soit relativement pluvieux depuis une petite quinzaine de jours. Mais est-ce que ça aussi, c'est pas un facteur qui doit jouer peut-être sur la production? Puisque tu m'as dit tout à l'heure que les abeilles produisaient du miel pour se nourrir l'hiver. Mais si l'hiver est trop doux, elles n'ont pas besoin d'en produire. Ou alors s'il est trop dur, elles en consomment pour se... Enfin, je ne sais pas, explique-nous un peu
ce
processus.
C'est une question très très pertinente, très fine. Parce que quand le temps est doux, ça peut remettre en marche la ponte de la reine. Donc si ça remet en marche la ponte de la reine, les abeilles peuvent être amenées à sortir. Et ça peut aussi les obliger à consommer plus. Donc il faut compter en moyenne... C'est global, mais enfin, c'est précis pour une ruche d'Adam, qui est un format de ruche. Il faut compter 15 kilos de miel par ruche, rapporté à 50 000 abeilles en moyenne. L'été, mais 25 000 l'hiver, ça te fait même pas un gramme par abeille, ce qui est très faible. Mais elles peuvent le consommer plus ou moins vite si le temps est doux. parce que la ponte repart, il faut qu'elle mange.
Donc plus l'hiver est doux, moins tu auras de miel.
Alors, ta question est pertinente, elle appelle une réponse hyper technique. C'est-à-dire que c'est le miel qu'on donne aux abeilles l'hiver qui leur permet, enfin avant l'hiver, à l'automne, qui leur permet de passer l'hiver. Mais on peut suppléer aussi les carences en leur donnant du candice que tu vas manger, par exemple, en sortant des studios à la pâtisserie. C'est sur les religieuses au chocolat ou bien au sucre. C'est le sucre blanc qui est sur la religieuse. Et ben ça, on peut le donner en gros pain pour suppléer justement les carences, la consommation de miel de la ruche. Il faut peser la ruche à l'arrière pour estimer la consommation de la ruche.
Ah oui, parce que la ruche pèse en tant, et que tu connais à l'abeille près le nombre d'abeilles dedans, donc tu peux déduire que ça, moins ça, on a le voilà. Nombre de kilos de miel.
Qui leur reste, oui.
D'accord.
Oui, oui. Si tu veux, moi si je pèse, j'aurai une perception assez un peu à l'arrache, quoi. Maintenant, il y a des petits pesons électroniques qui te donnent précisément le poids de la ruche. Il te suffit simplement de lever de 1 ou 2 cm et tu enlèves le poids des abeilles, tu enlèves le poids des cadres, le poids de la cire, le poids de la ruche, le poids de la toiture, et tu sais à peu près ce qui reste en gros, comme à 1 ou 2 kilos près, tu sais ce qui reste dans ta ruche, quoi. Le plus simple, c'est d'aller ouvrir la ruche et de voir si les abeilles ont vraiment des réserves ou pas. Mais pour ça, il faut qu'il fasse très doux. Et c'est ce qu'on a fait, c'est ce que j'ai fait au mois de février, parce que j'ai profité de quelques jours de beau temps pour aller ouvrir quelques ruches et voir les réserves qui leur restaient.
Alors je suppose que tu t'encapuchonnes d'une armure hermétique, ou alors est-ce que tu fais tellement confiance à ta relation avec les abeilles ?
Alors, sur certaines ruches, je porte le voile et puis je mets des gants. Sur d'autres, je mets la vareuse, bien sûr. Et je ne mets pas de gants parce que je sais qu'elles ne vont pas m'agresser, quoi.
Parce qu'il y a des ruches qui sont plus agressives que d'autres.
Alors, ça dépend des certaines sous-espèces, oui. Certaines races d'abeilles, elles agrafent un peu, oui. Mais ceci dit, si les abeilles ne piquaient pas, il y a longtemps qu'elles n'existeraient plus.
En tout cas, Bernard, je suis désolé d'abréger toutes ces considérations. Je ne sais pas si ça vous intéresse, chers auditeurs. Moi, je suis passionné par ce sujet. Et je comprends que tu fasses des formations et qu'il y ait des postulants. Hein. Tout à l'heure, tu nous rappelais que si le nombre d'apiculteurs professionnels diminuait, par contre, le nombre d'apiculteurs amateurs qui ont quelques dizaines de ruches, oui, augmentait.
En France, oui.
Et donc, tu leur proposes des formations. Et dans ces formations, qu'est-ce que tu leur enseignes ?
Alors, moi, ce que je fais, c'est assez simple. C'est, comme on disait au début de l'émission, c'est de l'initiation. Alors, c'est sur les cycles de l'abeille à l'intérieur de la ruche. C'est aussi la génétique de l'abeille, de la reine aussi, bien sûr, et du faux-bourdon, comment ça marche, quel nourrissement apporter, des travaux pratiques. Ce sont des bases pour...
Où placer sa ruche ?
Où placer sa ruche, quel emplacement, bien sûr, pas à côté d'un pylône électrique, par exemple.
Ni d'une route avec beaucoup de gaz d'échappement ?
Il vaut mieux éviter de les mettre à côté d'une autoroute, parce que sinon on va ramasser du miel du bord de l'autoroute, quoi. Mais enfin bon, à 10, c'est pas trop gênant. Et puis, il y a après, le deuxième jour, ce sont des ouvertures de ruches, et il y a aussi une partie sur les prédateurs et les maladies de l'abeille, les bactéries et tous les soucis qu'elles rencontrent, et comment y remédier, voilà. Mais ce sont dans les grandes lignes. Donc quelqu'un qui veut ensuite mettre une ruche dans son jardin, moi je vais après, j'apporte un suivi pour l'aider à ce que cette ruche, enfin son développement soit durable dans le temps. Sinon, après, dans le courant de l'été, je fais, je fais de l'élevage et j'invite les apiculteurs novices et débutants à venir faire de l'élevage et à renouveler, à comprendre comment on fait pour toutes les méthodes, parce qu'elles sont hyper nombreuses pour faire de l'élevage de rennes ou faire des essaims, et pour là aussi rendre son rucher durable. Et après, en septembre, je fais de la mise en hivernage pour ceux qui s'intéressent, mais là c'est plus court là comme stage. Donc je fais à peu près 3 sessions de stage par an, mais par vraiment petits groupes, quoi, 3-4 personnes, 5 personnes grand maximum, quoi.
Il y a toute une problématique concernant l'hivernage ?
Là aussi, c'est une magnifique question, parce que c'est une période qui se prépare très tôt dans l'année. Tout à l'heure, je t'ai expliqué qu'il y avait une courbe en fonction de la ponte de la reine, et l'apiculteur, enfin ici, dans le Diois, suit la courbe de la ponte de la reine pour qui, elle, suit la floraison, ce qui est logique. Donc, il faut ramasser assez tôt pour pouvoir leur laisser le temps de ramasser du nectar pour qu'elles le transforment en miel. Il vaut mieux qu'elles aient du miel pour elles que plutôt du sucre avec de l'eau, quoi. Enfin, du sirop de sucre. Ça serait un peu dommage. Ça peut arriver des fois qu'on le fasse, que vraiment les ruches sont, si elles n'ont pas assez de réserve. Mais c'est vraiment des cas, il vaut mieux éviter de le faire, quoi. Voilà. Si tu prends, par exemple, tu vas sous les tropiques, tu vas à la Martinique, tu vas à la Réunion, ce que je te souhaite d'ailleurs. Les apiculteurs là-bas, ils ont un été permanent. Donc ils n'ont pas de mise en hivernage. Ici, on est obligé, si tu veux, de gérer, de prendre ce temps-là en compte.
Ça s'apprend. Enfin, on ne fait pas n'importe quoi, je suppose.
Ah bah c'est comme la bicyclette ou la bossa nova, ça s'apprend, quoi.
De même, tout ce qui concerne ta deuxième session qui est plutôt la gestion de l'essaim et
voilà, l'élevage, oui.
Et l'élevage, comme tu disais, il y a énormément de trucs pour même peut-être se procurer un essaim. Comment fait-on quand on a une ruche mais qu'il n'y a rien dedans? Et comment part-on avec rien? Il faut trouver un essaim? Faut aller au supermarché? Est-ce qu'il y a des gens qui proposent des essaims?
Alors,
tout près?
Il y a, depuis que l'abeille rencontre des problèmes, la profession s'est spécialisée. Il y a des éleveurs qui font pratiquement pas de miel, mais qui font de l'élevage de rennes et qui proposent des essaims. Il y a quelques-uns qui ne font que ça. Il y en a quelques-uns dans la Drôme aussi. Et on peut s'adresser à eux pour avoir ses premiers essaims. Et la première année, bien sûr, ça ne produit pas grand-chose, sinon du bonheur et de la joie. Mais la deuxième année, on peut espérer ramasser du miel. Alors sinon, on peut ramasser un essaim qui, lui, entre guillemets, est dit sauvage parce qu'il est parti d'une ruche, parce que la reine était un peu âgée. Donc elle est partie avec la moitié de la colonie et elle est partie se promener et s'installer dans un autre endroit. Mais là, bien sûr, on peut, des fois, dans cette situation périlleuse, en haut d'une échelle ou d'une cheminée, avec une corde autour du ventre, ramasser l'essaim et le mettre dans une ruchette.
Avec quoi? Avec une espèce de haveneau?
Haveneau, c'est quoi?
Alors, c'est un terme breton. C'est un manche avec un filet au bout et tu racles le fond de la mer pour récupérer des crevettes.
Non, là, c'est un panier à essaim. C'est une poche qui a une ficelle en bas. Une fois que l'essaim... On a secoué la branche une fois que l'essaim est tombé dans la poche, au bout du manche.
Est-ce que c'est compact?
Oh, ça bouge pas. Oui, c'est compact. Et puis, si tu les arroses un peu avec de l'eau, ça les colle.
Et ça se décolle ensuite ou elles sont solidifiées en un seul bloc?
Non. Elles restent ensemble et elles tombent dans la poche. Moi, je te dis ça, c'est facile. Mais bon, c'est vrai que c'est pas toujours évident parce qu'on est en haut d'une échelle. Et il faut tenir la ruchette, il faut secouer la branche. Ça bouge, il y a du vent. Enfin bon, on fait tomber dans la poche, on ferme en haut, après on redescend avec la poche et on ouvre la partie du bas, tac, ça tombe dans la ruchette.
Et celles qui sont en bas sont écrasées, non?
Non, pas trop, non. Non, ça va. Non, il n'y a pas trop de pertes. Il n'y a pas trop de pertes, elles se respectent.
C'est fascinant tout ça, hein?
Ah oui. D'ailleurs, j'invite Louis à venir mettre une vareuse, porter le voile et découvrir l'univers fascinant de la ruche.
Ce serait absolument passionnant. Hein. Le problème avec Erdiwa, c'est que c'est un sacerdoce et que j'ai pas assez de bras pour faire tout ce que je dois faire. Et on me demande ici à droite, enfin, je vais pas commencer à raconter mon histoire, mais ceci dit, on n'a pas le temps de s'ennuyer à Radio Diwa. Ceci dit, à part la première session qui est le 19-20, qui est donc l'initiation, oui. Tu n'as pas encore de date précise.
Ça sera plutôt début avril, mais la semaine 14, je pense, pour la partie élevage. Le mois de mai est le plus favorable pour faire l'élevage de rennes. On dit qu'en général, c'est le mois d'apiculteur pour faire l'élevage ou pour commencer à poser les hausses pour faire sa récolte ou des travaux comme ça. Mais... comme tu disais tout à l'heure judicieusement, qu'il y a un réchauffement climatique, ça s'est un petit peu décalé en avance dans le temps. Et on ne sait pas comment sera le printemps cette année, vu que l'hiver a été très doux. Donc on est un peu dans l'incertitude. Je m'avance un peu sur les dates, mais voilà quoi.
Pour assurer des gens qui pourraient, suite à cette interview, au miracle, se dire « Oh ouais, j'ai envie de faire au moins avoir une ruche ou deux », est-ce que s'occuper d'une ruche, c'est un passe-temps chronophage?
Pour des gens comme moi qui mettent le petit doigt et qui se font bouffer complètement, oui. Mais pour quelqu'un qui veut mettre une ruche dans son jardin, une ruche, au bout de quelques années, c'est bien. Moi, je dirais que ça ne suffit pas. Il en faut deux pour qu'il y en ait une qui puisse renouveler l'autre. Ce n'est pas trop chronophage. Il y a 3 visites par an, à peu près. Après, une petite visite superficielle pour savoir si on met la hausse. Et la récolte, qui, elle, est particulière.
Ça fait longtemps que tu fais ces Méli formations?
Alors, des formations, ça fait depuis 2 ans, et sinon, des ruches, ça fait depuis 13 ans.
De temps en temps, il y a des gens qui se plaignent que j'emploie des termes un peu trop techniques, mais ça vient pas de moi, ça vient de toi. Tu les appelles ainsi, Méli Formation. Méli, ça vient de...
Méli, ça... Mélifère, c'est tout.
Et c'est-à-dire
c'était le jeu de mots. C'était, au lieu de parler d'une formation Mélifère, on a dit, c'est Hugues d'ailleurs qui m'a dit, mais appelle ça Méli Formation.
Oui, mais Mélifère, qu'est-ce au juste?
Eh ben, qui fait du miel.
Tout simplement.
Voilà.
Tu as dit que c'était des petits cycles d'initiation.
Oui, voilà, sur 2-3 jours.
2-3 jours pour des tout petits groupes.
Voilà.
Qui ne font pas concurrence, qui ne sont pas redondants avec des cycles de professionnalisation que proposent d'ailleurs des organismes d'IWA. J'ose pas le dire, mais je crois qu'au.
Non, il faut oser le dire. Il y a le CFPPAP qui fait des cours très pointus, très suivis avec Lionel Liénard. Sinon, pour les gens qui veulent carrément se lancer au niveau professionnel, il y a un centre de formation qui est très réputé d'ailleurs. En France, c'est le lycée, c'est un lycée agricole, je crois que c'est un lycée agricole, qui à la Côte-Saint-André, voilà. J'hésite si c'est un CFPPA, je ne sais plus.
Néanmoins, si on suit tes 3 petites formations, voilà. 1, initiation, 2e ange, élevage, et enfin,
hivernage,
ouais. On est censé se débrouiller, tant bien que mal, avec tes conseils d'ailleurs, parce que tu es toujours là, comme tu l'as dit, de se débrouiller pour se lancer dans cette activité.
Oui, parce que l'apiculture, c'est comme tout, ça s'apprend.
Est-ce que tu accepterais non seulement de dire le prix de ces petites formations et aussi de dire des coordonnées pour que des gens puissent s'inscrire à tes formations?
Alors, les stages pour l'initiation, ça dure 2 jours, une journée théorie, on a dit une journée pratique. Il faut compter 180 euros si c'est pris par un organisme, un OPCA, organisme de gestion paritaire des cotisations de formation professionnelle.
Car tu es donc habilité?
Je suis habilité par la région Rhône-Alpes. Et puis, sinon, pour un particulier, c'est 140 euros. Et les stages d'élevage, c'est le même prix. Bon, ça dure quelques jours de plus. Mais ce qu'il faut être bien conscient, c'est que l'élevage en apiculture, c'est un peu comme une vache qui va veler ou un cheval qui va faire son petit. C'est tel jour à telle heure, il faut être là. Et donc, c'est extrêmement précis et il ne faut pas se louper. Quoi.
Et pourquoi donc là?
Bah parce que la naissance d'une reine, c'est tant de jours. En moyenne, c'est 10 jours et les apiculteurs, ils y vont à 9 jours par prudence, quoi. Et après, la journée d'avant ou le matin, on fait les essaims pour pouvoir introduire les reines à telle période, quoi. C'est assez fin, quoi. C'est le plus passionnant.
Quand tu donnes rendez-vous à tes postulants, il faut être là à l'heure.
Comme les fusées.
Donc 140 euros et un moyen de te contacter pour s'inscrire?
Alors, il y a un site internet qui est incontournable qui s'appelle... polen.bz, polen.bz. Et puis, sinon, il y a un numéro de téléphone, c'est le 06 49 98 45 70.
Merci Bernard.
Merci Louis, à bientôt.
À bientôt.
Au revoir.
Au revoir.
Interview.